Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Sri Aurobindo, Savitri, livre 2, traduction en français de Satprem et le chant 13 qui s'intitule « Dans le moi du mental », mais le moi avec un grand M. Enfin est arrivé un ciel nu, indifférent, où le silence écoutait la voix cosmique, mais ne répondait à rien, à un million d'appels. L'interminable question de l'âme ne recevait pas de réponse. Une abrupte conclusion terminée, les espoirs assoiffés. Une cessation profonde dans un calme puissant. Un point final sur la dernière page de la pensée. Et une marge et un blanc de paix sans mots. Là, s'arrêtait la hiérarchie et l'escalade des mondes. Il se tenait sur l'arc immense d'un sommet d'espace seul avec un colossal moi du mental. Seul avec un colossal moi du mental qui contenait toute la vie dans un coin de ses vastitudes. Omnipotent, immobile, distant. Dans le monde qui a jailli en lui, il ne prenait point part. Il ne faisait nulle attention au chant de victoire. Il était indifférent à ses propres défaites. Il entendait les cris de la douleur, mais ne faisait point signe. Impartial, son regard tombait sur le mal et sur le bien. Il voyait venir la destruction et ne bougeait pas. Égale cause de toute chose, voyant solitaire et maître de la multitude de ses formes. Il n'agissait pas, mais portait toutes les pensées et tous les actes. Témoin et seigneur des millions de scènes de la nature, il consentait au mouvement de sa force. Le mental du roi reflétait ce vaste quiétisme. Cet immobile témoin était la base secrète du penseur. Caché dans le silence des profondeurs, le mot se forme, jaillit des silences cachés, l'acte naît. Dans le mental parleur, dans le labeur des mondes, dans les enveloppes du mystère, la semence. L'Éternel sème. Le silence, lieu de naissance mystique de l'âme. Replié et hors du temps dans le suprême calme de Dieu, un moi voyant et une énergie active étaient réunis. Le silence se connaissait lui-même. Et la pensée a pris forme. d'elle-même la création de ce double pouvoir. Dans le moi immobile, le roi vivait et ce moi en lui. Les profondeurs immémoriales et muettes écoutaient en lui. Leur vastitude et leur immobilité étaient à lui. Faisait corps avec le moi, il était répandu, puissant et libre. À l'écart, sans lien, il regardait toute chose faite, comme l'un qui bâtit ses propres scènes imaginer et ne perd pas dans ce qu'il voit, spectateur d'un drame qu'il a lui-même conçu, il regardait le monde et observait les pensées qui le meuvent et la lumineuse prophétie déjà contenue dans leurs yeux, il regardait ses forces au pied de la flamme et d'ouragan sorti du silence de son âme. Désormais, il semblait tout comprendre et tout connaître. Il n'y avait plus de désir, plus de remous de volonté. Le grand questionneur troublant avait perdu sa place. Plus rien n'était en question, ni à chercher. Là, il pouvait rester. Le moi, le silence, était conquis. Son âme était en paix. Elle connaissait le tout cosmique. Mais soudain, un doigt de lumière est tombé. Sur toutes ces choses vues et touchées et entendues et senties, et montées à son mental que rien ne pouvait être connu, et montrées à son mental que rien ne pouvait être connu. Il fallait toucher cela d'où vient toute connaissance. Le rayon sceptique soudain bouleversait toutes les semblances et frappait à la racine même de la pensée et des sens. Ses racines avaient grandi dans un univers de naissance aspirant à un soleil supraconscient, jouant par tous les temps, de soleil ou d'orage, tombé des cieux plus célestes encore, et qu'elle ne pouvait jamais gagner si haut qu'elle touche, ni traverser si pénétrante soit leur sonde. Un doute s'attaquait au moyen même de penser. La méfiance tombait sur les instruments du mental. Tout ce qu'il prend pour la brillante monnaie de la réalité, les faits prouvés, les inférences établies, les claires déductions, les théories solides, les conséquences certaines apparaissaient comme une fraude sur la banque de crédit du temps, ou comme des biens sans valeur dans la trésorerie de la vérité. Une ignorance sur un trône mal assuré, travesti d'une souveraineté fortuite, une apparence de connaissance vêtue de mots douteux et des formes de pensée clinquantes et brillamment ineptes. Ouvrier dans le noir, ébloui par une demi-lumière, ce qu'il connaissait était une image dans un miroir brisé. Ce qu'il voyait était réel, mais sa vue mensongère. Toutes les idées de son vaste répertoire étaient comme le grondement d'un nuage qui passe et s'épuise dans son propre bruit sans laisser de traces. Frêle maison, suspendue dans un air incertain. La fine toile ingénieuse autour de laquelle il court, tissée un moment sur l'arbre de l'univers et roulée sur elle-même, encore une fois, était seulement un piège pour attraper la pâture d'insectes de la vie. Des pensées ailées qui papillonnent, fragiles, dans une brève lumière, mais mortes sitôt prises dans les formes fixes du mental. Des visées naines, mais énormes et imminentes, à la menue échelle de l'homme. Une brillante gaze d'imagination papillonnante et des croyances desséchées enveloppées d'une toile d'araignée. La paillote magique des certitudes entassées faites de poussière chatoyante et de clair de lune, où il dresse l'autel de son image du réel s'effondrer dans la naissance d'où elle était sortie. Seul restait un miroitement d'effets symboliques qui drape de leur éclat le mystère dissimulé. Des faussetés assises sur des réalités cachées qui les font vivre jusqu'à ce qu'elles s'effeuillent du temps. Notre mental est une maison hantée par un passé détruit. Notre mental est une maison hantée par un passé détruit. Des idées vite momifiées, des revenants de vieilles vérités, spontanéité de Dieu, ficelées par la corde des rituels et empaquetées dans les tiroirs propres de la raison, un cimetière de grandes occasions perdues, ou une officine pour abuser des âmes et de la vie. Et tout le gâchis que fait l'homme des dons du ciel, et tout son gaspillage des réserves de la nature. Un théâtre de la comédie de l'ignorance. Le monde semblait une longue scène de la faillite des âges. Tout devenait stérile, nulle base ne restait sûre ni saine. Assailli par le couperet du rayon condamnatoire, la raison bâtisseuse perdait confiance et la réussite des tours de passe-passe de la pensée qui font l'âme prisonnière d'une phrase. Sa sagesse la plus haute était une brillante devinette. Sa formidable science de la structure des mondes, une lumière passagère sur les surfaces de l'existence. Il n'y avait rien là qu'un schéma tracé par les sens, une imitation des mystères éternels, un gribouillis de calculs de la réalité, un plan et une épure de l'architecte des mots. Posé de force sur les semblances du temps. Le moi de l'existence était frappé d'un doute. Presque il semblait pareil à une feuille de lotus flottante sur l'étang nu d'un néant cosmique. Ce grand spectateur et créateur mental était seulement quelque délégué à demi aveugle, un voile pendu entre l'âme et la lumière, une idole, non, le corps vivant de Dieu. Même l'esprit immobile qui regarde ses œuvres était quelque pâle fronton de l'inconnaissable. Même l'esprit immobile qui regarde ses œuvres était quelque pâle fronton de l'inconnaissable. Le vaste moi témoin semblait une ombre. Sa libération et son calme immobile étaient seulement un vide recul de l'être qui nie les créations du temps, non la vision même de l'éternité. La paix profonde était là, certes, mais non la force sans nom. Notre douce et puissante mère n'était pas là, qui serre sur sa poitrine la vie de ses enfants, ni son embrasse qui prend le monde dans ses bras, dans l'insondable ravissement de l'infini, ni la joie qui est le grain splendide de la création, ni la blanche passion de l'ivresse de Dieu qui rit dans le flamboiement du cœur de l'amour sans limite. Un esprit plus grand que le moi du mental doit répondre à la question de son âme, car il n'y avait point de clé solide, là, ni de route sûre. Les hauts sentiers ascendants se refermaient dans l'inconnu. Un œil de peintre bâtissait l'au-delà, avec des décors contradictoires et des coloris discordants. Une expérience parcelle fragmentait le tout. Le roi a regardé plus haut. Mais tout était blanc et immobile. Le firmament sarifféen de la pensée abstraite s'évader dans une vacuité sans forme. Il a regardé au-dessous, mais tout était noir et muet. Entre les deux, un tumulte de pensées et de prières, un conflit, un labeur sans fin ni cesse, une vaine et ignorante recherche élevait la voix. une rumeur et un remous et un appel. Une masse bouillonnante, un cri innombrable, roulé sans trêve sur l'océan houleux de la vie. Le long des côtes de l'ignorance mortelle. Sur son énorme poitrine instable des êtres et des forces, des formes, des idées ballottées, se bousculer pour la suprématie et le prestige, et monter, chavirer et remonter encore dans le temps. Et au fond de ce remuement inlassable, un néant, géniteur des mondes en lutte, une gigantesque mort, créatrice, un vide mystique, soutenant à jamais ce cri irrationnel, excluant à jamais le mot suprême, impassible refusant la question et la réponse, ensevelie sous les voix et les pas, l'énigme muette, du sombre inconscient. Deux firmaments, de ténèbres et de lumière, opposaient leurs limites à la marche de l'esprit. L'esprit allait et venait, voilé et séparé de l'infinitude du moi, dans un monde d'êtres et d'événements momentanés où tous doivent mourir pour vivre et vivre pour mourir. Immortel, par sa mortalité répétée, il errait dans la spirale de ses actes ou courait autour des cycles de sa pensée. Et pourtant, il n'était pas plus que le moi originel. Et pourtant, il n'était pas plus que son moi originel. Il n'en savait pas plus que la première fois où ils avaient commencé. Être était une prison. L'anéantissement était l'évasion. Fin du chant 13 dans le moi mental. Savitri de Sri Aurobindo, livre 2, chant 13. Traduction de Satprem. Une infinie gratitude à Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture sublime. Ganga Lakshmi.